Osmozen, l'émission. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous, c'est Osmozen, l'émission bien-être produite par Osmose Radio et partagée, rediffusée avec nos amis de Rage FM le dimanche soir à 22h sur 90.3 sur Avignon et parfois sur Nîmes également. Alors aujourd'hui, il y a un petit mot du monde, hein. Vous pouvez nous voir sur Facebook si vous voulez aussi sur la page d'Osmose Web Radio. Il y a 4 personnes avec nous. Alors, qui sont-ils? Qui sont-elles? Ils représentent évidemment l'association Ici et Maintenant, comme vous l'a annoncé Elena il y a quelques instants sur la même page Facebook. Alors pour en parler, j'ai la présidente qui est avec nous, Isabelle Maresco. Approchez du micro.
Bonjour.
Approchez du micro.
Isabelle. Bonjour, bonjour.
Bonjour. Ça va?
Ça va bien, merci.
Bien, on vous a connu à Osmozen, le salon à Veden l'année dernière.
Exactement.
Vous diffusiez des petits prospectus pour expliquer un petit peu le travail et les actions, les objectifs de votre association. Ici et maintenant, et aujourd'hui, bah, vous êtes venu en nombre.
C'est ça, j'ai 3 musclés avec moi.
Ouais. Attention, on ne va pas vous chanter des trucs comme pour un petit coup.
Bon alors, 2 et demi.
D'accord, 2 musclés des bras et 1 du cerveau. Alors, à côté, j'ai Pascal Mélène, que nos auditeurs connaissent un petit peu, hypnothérapeute.
C'est ça, oui, hypnothérapeute, magnétiseur, barreur de feu, voilà.
Participant également au Osmozen d'ailleurs,
tout
régulièrement.
À fait, régulièrement, depuis le début, je pense. Ouais.
Et quand on a envie d'arrêter de fumer, ce genre de choses,
voilà, c'est là
on va voir Pascal.
C'est à moi qu'il faut s'adresser, tout voilà. À fait. Quand on est prêt. Voilà.
Ah oui, c'est vrai que si on ne veut pas, ce n'est pas la peine. Hein.
C'est pas la peine, bah, l'inconscient, c'est nous, donc c'est...
Même l'hypnose ne peut rien là.
Même l'hypnose ne peut rien, ouais, non.
Si on veut pas, ça marche pas.
Si on veut
pas,
ça marche pas.
Et si on fait semblant de croire qu'on veut, ça marche pas non plus.
Ça marche pas non plus. Si on veut le faire pour un autre, ça marche pas non plus. Oh.
Chacun chez soi.
Voilà, c'est ça.
Et pour soi. À côté, il va falloir qu'il s'approche du micro aussi. Lazare. Lazare Selmi. Alors vous êtes sonothérapeute.
Sonothérapeute.
Approchez
ça.
Le micro de vous. Il faut être vraiment prêt, comme Johnny. Là, oui,
sonothérapeute.
Voilà, c'est bien. Sonothérapeute, ça veut dire du son, de la thérapie.
Voilà, c'est ça. La réponse est dans la question. En fait, c'est utiliser les sons, plus particulièrement les vibrations sonores, pour faire de la thérapie, pour prendre soin des personnes qui veulent bien participer à l'expérience.
Alors, vibrations sonores, nous, on avait vu la sonopuncture.
Oui.
Avec des diapasons, dings.
Tout à fait.
Il y a d'autres instruments, j'imagine, là, on est plus vaste, plus large.
On est plus vaste. Alors, on utilise bien sûr les diapasons thérapeutiques qu'on applique sur certains points précis et les fameux bols chantants qu'on entend régulièrement. Alors, bols tibétains, on ne vient pas forcément du Tibet, mais voilà.
Qui émettent des vibrations assez extraordinaires,
émettent
des fois.
Vibrations tout à fait extraordinaires, c'est ça.
Si on approche l'oreille, ça fait un truc, c'est obligé.
On les approche de l'oreille, on peut aussi parfois les poser sur les personnes.
Ah oui, j'ai vu que des personnes faisaient des mouvements autour du corps d'une personne allongée, c'est ça.
Voilà, on peut faire des mouvements, on peut poser aussi le bol sur la personne pour avoir une résonance encore plus prégnante, on va dire. Voilà, essentiellement, en tout cas pour ma part, j'utilise les bols et les diapasons.
Bien, on en parlera un petit peu mieux tout à l'heure.
Voilà.
Plus en détail en tous les cas, à côté de vous, c'est Roland Gabrielli. Bonjour Roland, prenez le micro également.
Bonjour.
Praticien en relaxation biodynamique.
C'est ça.
J'aime bien l'association de relaxation et dynamique.
Oui.
C'est marrant parce qu'on dirait que c'est presque antinomique. Mais...
Non, pas du tout. En fait, relaxation, donc c'est le relâchement et la détente. Le bio, c'est la vie. Et dynamique, c'est le mouvement. En fait, c'est comment remettre de la vie et du mouvement dans le corps tout en étant relâché et détendu.
Ah oui.
Voilà, par une série d'exercices.
On voit que vaut mieux en remettre quand on est relâché et détendu que quand on est crispé. Ça doit. Non, je sais pas, quand on envoie de l'énergie dans un truc un peu froissé, ça doit faire un peu mal, j'imagine.
Oui, c'est pour ça que cette série d'exercices va permettre de libérer justement toutes les tensions que le corps et l'émotionnel a accumulées au fil des années. Et par cette série d'exercices, on va libérer toutes ces tensions et permettre au mental en même temps, en étant accompagné verbalement, de se libérer et de vraiment prendre conscience de notre état intérieur, de notre corps et du mouvement associé à la respiration.
D'accord. On oublie souvent la force et la puissance du mental pour l'équilibre et le bien-être de notre corps.
Pour retrouver justement l'harmonie intérieure, l'équilibre et le bien-être.
Voilà, on redonne un coup de boost au mental pour donner un coup de boost au reste, au physique, quoi, au corps. Vous êtes également un témoin puisque vous avez profité des actions et du soutien de l'association.
Tout à fait. J'ai connu l'association... Et d'abord une autre association en premier lieu. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai une pathologie. Donc cette première association m'a permis de découvrir justement des techniques et d'être accompagné en hypnothérapie, en sophrologie, en psychologie, Puis j'ai découvert des pratiques comme le Qigong, le yoga. Donc toutes ces techniques de bien-être m'ont amené à mieux gérer ma pathologie, à mieux gérer mes douleurs.
C'est quelque chose de chronique, quotidien.
C'est une pathologie chronique, oui, qui est avec des douleurs. Et ces douleurs chroniques entraînent forcément un état entre guillemets dépressif, quoi, des problèmes relationnels, des problèmes au quotidien. Donc tout cet accompagnement au sein de l'association m'a permis de mieux gérer et d'avoir une meilleure qualité de vie.
D'accord.
Donc une fois que j'ai réussi à mieux gérer cette pathologie, ces difficultés-là, c'est ce qui m'a donné envie, moi, à mon tour, de devenir praticien pour pouvoir aider d'autres personnes comme je l'ai été moi-même.
Ah oui, ça fait boule de neige en plus.
Ça fait boule de neige, oui, tout à fait.
Et donc la bio, alors attendez, j'ai la relaxation biodynamique, vous avez eu envie de la pratiquer parce que vous en avez profité en fait.
Parce que j'en ai profité, voilà, à travers toutes les techniques que j'ai pu pratiquer. Donc la relax, en fait, est issue des arts énergétiques internes, donc utilisés dans les arts martiaux. Donc ça regroupe des exercices de Qigong, de Tai Chi, de yoga. Donc voilà, quand j'ai découvert cette pratique, je me suis dit que c'était vraiment très intéressant parce que par cette série d'exercices qui s'enchaînent en 9 étapes, voilà, on retrouve les meilleurs exercices de toutes ces pratiques.
D'accord.
Et en étant accompagné verbalement, ça permet véritablement de lâcher le mental et de se concentrer sur l'énergie interne.
Alors c'est des choses qu'on fait seul chez soi, en groupe, comment...
On peut faire seul, c'est ce que je fais moi régulièrement en pratique quotidienne, mais on le fait en groupe. Et donc j'accompagne des groupes, que ce soit des seniors, des particuliers, ça peut être en entreprise aussi, pour la gestion du stress. Mmh. Et puis on peut le faire en individuel aussi, je fais des accompagnements sur table.
D'accord, vous êtes passé de l'autre côté maintenant, alors vous êtes thérapeute entre guillemets ou accompagnant
plutôt accompagnateur bien-être. Ouais.
C'est marrant. C'est bien. Donc ça, c'est un des bienfaits de l'association ici et maintenant. Ouais. Isabelle, rapprochez-vous du micro. Je vais le dire tout le temps parce que je vois que vous êtes tous loin du micro. Il y a que 3 micros pour 4 personnes. Mais vous devez être fier quand vous entendez ce genre de choses.
Ouais,
c'est un peu votre objectif, ça.
Et je suis surtout fier de voir tout le chemin qu'il a accompli. C'est qu'à un moment donné, il n'était pas très, très bien et c'est pas si vieux que ça. Mmh. Et ouais. Franchement, c'en est même émouvant.
Alors, pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des traitements difficiles, des choses qui... Ou juste parce que les gens autour, c'est dur aussi à supporter quand on a...
Oui, il y a les deux. La première pathologie, en fait, était compliquée par rapport à... C'est une fibromyalgie.
Ah oui,
on va parler de termes, voilà. Donc, c'est compliqué socialement, par rapport à l'entourage, pour la vie active, sociale, etc. Et puis après, il y a une deuxième pathologie qui s'est greffée là-dessus, qui est un cancer. Donc là, c'est le traitement lourd, médicamenteux. Donc avec tout ce que ça entraîne dans les effets secondaires et les difficultés physiques. Mmh. Et tout ce travail, on va dire, entre guillemets, que j'ai pu effectuer avant au sein de l'association, tout cet accompagnement que j'ai bénéficié, m'a permis de traverser cette épreuve dans les meilleures conditions et d'avoir une meilleure récupération. Mmh. Je pense que voilà,
garder le mental, surtout,
garder le mental,
qui permet de tenir, parce que j'imagine que le moral, ça va être en dents de scie là, avec les traitements.
Oui, c'était un peu
en dents de
scie, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des périodes qui étaient très difficiles, mais j'ai toujours gardé régulièrement une pratique plus ou moins quotidienne quand je pouvais, de manière à faire travailler le corps.
Et à se forcer un petit peu aussi, à rester quand même.
D'avoir une activité, c'est très important de garder une petite activité physique, même si elle est minime.
Ouais, pour pas sombrer complètement, parce que là, après, on lâche prise et adios.
On lui aurait pas permis de lâcher prise totalement.
Non, j'étais bien accompagné.
C'est un cas exceptionnel où vos adhérents, vous vous accrochez à eux comme ça pour les soutenir
comme dit Pascal et comme l'a dit Roland aussi, il faut que les gens le veuillent.
Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est prérequis, comme on dit.
On accompagne, mais on demande également à ce que la personne soit acteur ou actrice de son retour à la santé, en fait.
Ouais. Voilà. Ou en tous les cas, un mieux-être qui lui permet de mieux aborder ou mieux vivre les traitements qui sont des fois quand même
très bon.
Durs, qui abîment aussi, qui ont des effets secondaires.
Totalement.
Un petit peu. Vous aviez beaucoup d'effets secondaires, vous ?
Alors,
Roland ?
beaucoup,
parce que des fois, dans les,
beaucoup,
voilà,
je ne sais pas, par rapport, j'ai pas de comparaison par rapport à d'autres, mais je pense que au vu des regards et des témoignages des médecins. Mmh. Dans l'avancée de mon traitement, j'ai eu des résultats assez exceptionnels.
D'accord. Voilà. Ah oui, ils ont remarqué
que j'avais une évolution très favorable assez rapidement. Et voilà, j'en étais surpris moi-même, mais apparemment, ils en étaient surpris aussi.
Oui, dans le bon sens.
Dans le bon sens, voilà.
Oui, vous pensez, il n'y a quand même pas de hasard des fois, peut-être qu'il y a un rapport.
Donc je pense qu'il y a un rapport. Je pense que déjà, mentalement et physiquement, j'étais préparé avec tout ce que j'ai vécu avant, tout ce que j'ai connu avant. J'étais déjà un peu préparé. J'ai connu aussi dans l'association la naturopathie. Donc au niveau de l'alimentation, au niveau des traitements complémentaires, tout ce qui est aromathérapie, etc. Donc j'ai pu être suivi à la fois... médicalement par le traitement médecin, chimique, oui. Voilà, mais aussi un complément avec
l'accompagnement.
Voilà.
Là, c'est ce qu'on aime bien voir, nous, c'est que ben justement, là, on s'accompagne, c'est-à-dire il y a tout le travail du médecin, de l'oncologue, des spécialistes et leur traitement, et le travail des gens dans le bien-être ou dans le développement qui accompagnent, qui aident, qui soulagent le mieux qu'ils peuvent. Hein. C'est un peu ça, en fait.
Oui, l'idée, c'est d'avoir une sorte de partenariat, ce n'est pas forcément le mot, mais d'être là à côté, voilà, tout à côté. Certains médecins sont totalement ouverts. On a été reçus par le président de l'Ordre des médecins, qui a favorisé notre communication. Voilà. Donc, on a des contacts de temps en temps à Sainte-Catherine. Ça reste encore timide. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de se poser la question pourquoi les gens ne viennent pas forcément vers nous. Je pense que sur Facebook, on a notre page, on a notre site, les gens nous connaissent.
Il y a un lien sur la vidéo, ils n'auront qu'à cliquer pour aller vous retrouver sur la page.
On commence à nous connaître aussi dans certains milieux, mais il y a un petit peu de timidité. Alors, peut-être pas la timidité.
Avant d'être connu, on est bien placé pour le savoir. Il faut un certain temps, il faut de la communication, il faut aussi des moyens pour se faire connaître. Parce que voilà, vous n'avez pas une chaîne de télé qui vous permet de passer dans toute la France en train de dire coucou.
Non. Oui. Qui dit petite association
la
dit.
Derrière vous, tout ça, c'est pas évident. Quoi.
Non, on a des petits moyens. C'est vrai qu'on n'a pas encore ouvert trop au niveau de la presse, parce qu'on a aussi nos occupations et on a ça en plus. Quoi. Et l'originalité, quelque part, de ce qu'on fait, c'est que on a démarré en ayant... on avait des locaux, et il s'est trouvé que ces locaux-là, ça faisait assez lourd à gérer au niveau financier, surtout. Donc, on a eu l'idée, avec le bureau, de créer des référents. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire venir les gens chez nous, les gens vont chez les thérapeutes. C'est-à-dire que les thérapeutes reçoivent à domicile au nom de l'association, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui vienne soit adhérente à l'association, sinon ça ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'on peut faire une cartographie des thérapeutes et que la personne peut aller chez le thérapeute qui est pas trop loin de chez elle, voilà, ou qui lui convient, etc. Et l'intéressant, c'est que ce modèle-là peut être reproduit partout, finalement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une ramification sur Paris, sur Marseille, des antennes. Voilà. Alors, on va déjà s'occuper de nous ici. Hein.
Commençons par
soyons modestes. L'idée, c'est pas de ramifier partout, mais qu'il y ait aussi, que ce soit accompagné d'une prise de conscience. C'est-à-dire que nous, le mot qui a été important quand on a créé cette association, c'est rompre l'isolement. Parce qu'on n'a jamais, on est seul, hein, souvent, voilà, mais on est encore plus isolé quand on a une pathologie. C'est-à-dire
que... puis on se fait des fois abandonner directement. Moi, j'ai eu des personnes ici qui ont été séparées, enfin, qui voient leur ami partir.
Complètement.
C'est choquant, on n'imaginait même pas, mais c'est vrai que du coup, on se retrouve très isolé des fois.
Tout à fait.
Isolé, malheureux, dépressif.
Et malade.
Sous traitement, sans savoir quel sera l'avenir, si on a un avenir. Donc c'est vrai que ça peut être très, très violent pour certaines personnes. Vous avez eu un constat, vous avez vécu quelque chose qui vous a donné l'envie de créer cette association et d'apporter ce soutien à des personnes qui souffrent.
On a tous une histoire qui est semée d'embûches, hein, bien évidemment. Personne n'y échappe. Voilà. Alors moi, je me suis un peu plus spécialisée, si on peut appeler ça spécialisée, au niveau de l'accompagnement des endeuillés. Voilà. Donc j'anime un café d'œil, je fais un petit peu de pub pour le café d'œil,
mais
c'est
tout le
nom de l'association, on est là pour ça.
Donc
un café d'œil à Caumont-sur-Durance, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, au 56, donc sur la route de Cavaillon. Voilà, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, la seule, je dirais, entre guillemets, obligation, c'est que chacun paye sa consommation s'il en prend une. Voilà,
Un café 1,20€, ça va quoi.
Ou 1,50€, ça peut. Il n'y a pas que du café, on peut boire un verre de vin aussi.
Je veux dire, si on boit juste un café, ça va, ça ne fait pas très cher.
Ça ne fait pas très cher, voilà.
Passer un moment,
voilà, c'est à 18h30 et c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et l'idée, ce serait aussi peut-être de trouver un lieu sur Avignon.
D'accord, voilà. Mais j'admire la pirouette, mais vous n'avez pas répondu à ma question.
Je n'ai pas répondu à ma question.
Qui était, comment vous avez eu l'idée?
Alors, l'idée, il y a deux choses. En fait, je faisais partie, donc je connaissais Roland... avant, et Lazare aussi d'ailleurs, on s'était croisés, d'une précédente association qui a fermé ses portes. Et moi, j'avais une espèce de frustration qui était que les gens, les adhérents, se retrouvaient sans rien. C'est-à-dire que l'association était partie, enfin, avait fermé. Ouais. Les thérapeutes,
c'était le même type d'association d'accompagnement.
Pas tout à fait le même fonctionnement, mais dans le même état d'esprit. Et du coup, j'avais gardé contact avec certains adhérents. Et puis, je ne sais pas, ça m'a pris un jour de l'année dernière, comme ça, au mois de janvier, hop, on va commencer le début d'année et paf, voilà.
Donc, l'année dernière, ah oui, c'est tout récent en fait.
Ça fait un an, voilà, ça fait un an. Et c'est arrivé comme ça, subitement, et du coup, on est parti sur cette lancée. Voilà.
Alors l'autre point que j'aimerais aborder, c'est justement vous mettez en relation des praticiens, des personnes souffrant de pathologies différentes. Nous on sait, et dans le public aussi, on sait que quand même une séance chez le praticien, il faut la payer quoi. Donc comment passe, parce qu'on n'a peut-être pas tous les moyens.
Alors on a tenu compte de cette donnée-là, parce que effectivement, je vais prendre l'exemple de la fibromyalgie, mais ça peut être appliqué à d'autres pathologies. J'ai rencontré un certain nombre de gens qui atteints de fibromyalgie, se retrouver dans l'incapacité de travailler, donc avec des revenus diminués. Il n'y a pas d'allocation spéciale fibromyalgie, désolé, voilà. Et donc, du coup, ces gens-là se retrouvaient en dehors de la possibilité de profiter de soins différents, d'un accompagnement différent. On a tablé sur des tarifs de façon à ce que chacun puisse participer. Alors, l'idée, c'était de ne pas faire du gratuit, parce que sinon, on se retrouve dans un assistanat total. Et pour nous, je dis pour nous parce que c'est le bureau et je pense que tous les praticiens sont d'accord avec ça, c'est qu'il faut que la personne soit acteur de son retour, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de son retour à la santé. Elle s'implique. et au-delà de la volonté de guérir, bien évidemment. Et donc, du coup, il y a une adhésion qui est la même pour tous, que ce soit praticien ou adhérent, qui est de 25 euros à l'année. Donc on peut avoir aussi des membres bénévoles, des gens qui veulent aussi participer à notre action.
Pour aider.
Pour aider, parce que le poste le plus cher, c'est la com.
D'accord. Ah oui, donc là, vous cherchez aussi des bénévoles qui voudraient
rejoindre
la sauce.
On n'a pas beaucoup d'activités pour l'instant, on va sur quelques salons et on peut avoir à développer bien sûr, mais on peut avoir des mécènes aussi, qui peuvent avoir un petit peu. Alors, je fais juste une petite digression. On va faire en sorte que l'association devienne d'utilité publique. Et dans ce cas-là, il y aura une réduction au niveau des impôts pour les gens qui
aideront.
Qui aideront.
D'accord.
Donc, pour en revenir au tarif, on a fait un tarif pour chaque séance qui est la même pour tous, le même tarif. Donc, c'est 15 euros la séance. Voilà. Ouais. Ensuite, on table aussi sur la continuité. C'est-à-dire que une personne peut venir une seule fois et ne pas revenir, ce qui est très rare quand même. Donc l'idée, c'est de faire des packages. Donc on a un pack de 5 séances qui fait tomber la séance à 12 euros. Le pack est à 60 euros.
D'accord.
Et un pack de 10 séances qui fait tomber la séance à 10 euros. Donc un pack
d'accord,
à 100
euros. Quand même des tarifs associatifs là.
Complètement.
D'accord, donc ça demande quand même de la part du thérapeute un engagement aussi.
Oui,
d'accepter de proposer des tarifs intéressants. Bien sûr, nous dit Pascal.
Ben,
proche du micro.
Bien sûr.
Alors, dans le cas précis de l'hypnothérapeute que vous êtes, Pascal Mélène, comment ça se passe? C'est l'association qui vous dit,
c'est tout à fait, ça fonctionne comme ça. C'est l'association qui prend contact avec moi. En vrai, c'est le client qui prend contact avec moi pour le rendez-vous. Et après, tout se gère en interne au niveau de l'association. Moi, je fais mon job de thérapeute.
D'accord. C'est la même chose pour... un adhérent de l'association pour un autre client ou patient, enfin, je ne sais pas comment on dit dans votre cas, c'est les mêmes thérapies. Ouais. Quand on a une pathologie, parce qu'on parle souvent de l'hypnothérapie.
Oui, on peut dire ça. En ce moment, ça risque de changer, mais pour l'instant, surtout des termes que les gens reconnaissent, c'est ce qui est important.
L'hypnose, on va dire, comme ça, c'est parfait.
Ouais, thérapeutique.
Thérapeutique, c'est encore mieux.
C'est encore mieux.
Ouais. On n'est pas au spectacle. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on en parle souvent pour la cigarette, pour les phobies, tout ça. Mais alors là, dans le cas de personnes qui suivent un traitement, qui ont une pathologie,
disons que l'hypnose, on travaille sur les émotions. Donc l'idée, c'est, les gens ont une pathologie, là c'est une finalité, et on travaille sur tout ce qui est émotion, donc tout ce qui peut les bloquer comment dire, actuellement, tout ce qui les pollue, mais c'est surtout les, comment dire, de raccrocher les wagons, de leur redonner confiance en eux, de leur redonner la motivation et l'envie de se battre.
Ah oui, là c'est important.
Là c'est très important, oui. Et dès qu'ils retrouvent cette envie de se battre, bien sûr, c'est plus facile.
C'est sûr que quand on est souffrant, qu'on vous annonce des très mauvaises nouvelles, des traitements très lourds, les émotions là...
Les émotions sont très basses. Bon, disons que je peux accompagner sur différents plans, parce que je suis magnétiseur aussi. Donc je peux accompagner énergétiquement aussi à travers des soins énergétiques. Je suis pas hors de feu, bon, pour tous les gens qui suivent un parcours de radiothérapie. Donc je peux les accompagner aussi à ce niveau-là pour enlever le feu. Et aussi énergétiquement, pour que... faut aussi les rebooster pour leur redonner de l'énergie. Avec de l'énergie, ils ont plus envie de se battre. Donc après, voilà, c'est... Et après, si elles le souhaitent, au niveau hypnose, après, c'est du cas par cas, quoi.
L'hypnose, dans ces cas-là, ça peut aider à quoi ? Changer l'état d'esprit ?
Oui, c'est changer l'état d'esprit.
Je suis un winner, quoi.
Par exemple, après, il y a souvent les problèmes de la personne qu'il faut régler, et aussi travailler sur la confiance, sur l'estime et l'envie de se battre. Se battre pour soi, se battre pour les autres aussi.
Oui, souvent, si on baisse les bras, si on est dépressif, c'est sûr qu'il y a quand même... ça dégringole.
La maladie a beaucoup plus d'emprise, oui. Et quitte à... Même si on doit tomber, autant se battre jusqu'au bout, quoi.
C'est vrai que c'est les chamans qui disent qu'il faut danser jusqu'à la dernière seconde pour garder le contrôle, en fait.
Tout à fait.
Même face à la dernière, au dernier souffle. Donc, vous recevez régulièrement des...
C'est assez récent, mon adhésion à cette association, mais déjà, oui, j'ai commencé à recevoir des gens, oui, tout à fait.
Donc, vous n'avez pas reçu Roland ?
Non.
Pas encore. C'est le seul qui a...
Sors ton agenda.
qui a la double casquette. C'est intéressant parce que vous avez démarré en tant qu'adhérent qui profite des soins, c'est ça ?
C'est ça.
Et vous avez évolué
sur la première association.
Dans la formation.
Parce que la première association, vous parlez Isabelle, c'est là où j'ai démarré les premiers soins. Donc il y a quelques années.
Ah oui, vous la connaissiez dans l'autre association.
On s'est connus à la première association. Tout à fait.
Ce que j'allais demander, comment vous êtes arrivé à connaître ici maintenant.
Donc, association, donc j'étais adhérent, et donc là c'est là où j'ai bénéficié des soins. Et c'est là où petit à petit, quand je me suis senti mieux dans cette association, que j'ai commencé à accompagner des personnes, puisque j'ai commencé à proposer des journées des après-midi en marche afghane pour accompagner ces personnes de l'association. Donc voilà. Et puis après, une fois que ici maintenant c'est créé, j'ai adhéré à l'association aussi pour moi. Et puis pour proposer
dans la première période, c'était la fibro, donc.
Première période, c'était la fibro.
Donc les douleurs, c'est ça, musculaires.
Oui, douleurs musculaires, articulaires, fatigue chronique.
Alors là, comment on vous a accompagné ? On peut définir ? Vous avez été allé voir quoi ? Un hypnothérapeute ?
Oui, tout à fait. Donc c'était pas Pascal qui était dans l'association. Il y avait une autre hypnothérapeute, Isabelle d'ailleurs, qui s'appelait Isabelle. Pas celle-là, mais une autre Isabelle. Donc j'ai fait des séances d'hypnothérapie, j'ai fait des séances de sophrologie, j'ai eu de la sophrologie, il y avait une psychologue, donc voilà, surtout l'accompagnement moral, mental, et c'est fait sur ces trois aspects-là. Et donc ça a été très important pour retrouver la confiance, pour retrouver l'envie, comme disait Pascal,
on peut y aller. Parce que la fibro, il n'y avait pas de traitement là.
Non, il n'y a pas de traitement.
C'est dur,
non.
C'est ça qui est aussi dur.
Les seuls traitements sont les antidépresseurs. Donc justement, quand je suis arrivé à l'association, j'étais sous antidépresseurs. Et au bout de quelques temps à l'association, j'ai arrêté les antidépresseurs, j'ai arrêté tout traitement médicamenteux pour passer à du traitement plus naturel et des thérapies
spécifiques, de vie aussi,
voilà, une meilleure qualité de vie. Donc j'ai eu une meilleure qualité de vie tout en arrêtant mon traitement chimique.
D'accord. Ben non, puisque vous n'en aviez pas, puisque c'était sous...
C'était les antidépresseurs, si, si.
Ah oui,
les antidépresseurs.
Oui, en plus, c'est réputé pour ne pas être super, les antidépresseurs.
Voilà, tout à fait.
Surtout après, quand on arrête, c'est là qu'on plonge.
Oui. Ouais.
Donc, vous n'avez jamais plongé, ça vous a...
Non.
En arrêtant, il faut être suivi, non, aussi, pour arrêter.
Oui, voilà. Le fait d'être accompagné aussi, ça aide beaucoup. Et c'est vrai que c'était une période difficile aussi dans la vie, parce qu'il y a d'autres événements qui viennent se rajouter au problème de la maladie. Donc, mais le fait justement d'être accompagné, un petit hypnose, un sophro, avec une psy, ça permet de passer le cap. Et après, de reprendre soin de soi, de reprendre envie, goût à la vie, avoir de l'espoir et de reprendre une activité physique comme le qigong, le tai chi, etc.
Puis le fait juste d'avoir des thérapeutes avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger, déjà, je pense que ça fait beaucoup.
Oui, ça fait énormément.
Ce ne sont pas des proches, forcément, c'est des gens qui on peut se livrer sans...
C'est ça, et puis... Et puis, surtout dans la fibromyalgie, il y a une incompréhension de la part de l'entourage parce que c'est une maladie invisible. Mmh. Et les gens ne comprennent pas ce que c'est.
Même
ce
encore aujourd'hui.
Même encore aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'ai démarré, ça fait une vingtaine d'années, on ne connaissait même pas la fibromyalgie. Non. Donc aujourd'hui, on en parle un peu plus, les gens connaissent un peu plus.
Ben non, on a un animateur qui était touché et longtemps, on l'a envoyé en psychanalyse, en psychothérapie, sans reconnaître du tout le côté... maladie, quoi.
C'est ça, voilà. Et donc, extérieurement, on a l'air tout à fait bien, parce que aussi on essaie de donner une image qui peut être correcte.
On n'a pas envie,
voilà, c'est ça. Mais par contre, à l'intérieur, ça fait de gros dégâts. Et c'est ça que les gens ont des difficultés à comprendre, ce qui est normal, ce que je conçois tout à fait, parce que tant qu'on ne vit pas la chose, on ne peut pas ressentir et on ne peut pas comprendre réellement ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Quoi.
Oui, c'est pas une raison non plus pour balayer d'un revers de main comme pas mal le fond, c'est l'inverse.
Et à la première association donc, où j'étais, j'ai pu bénéficier des soins de Lazare, donc en sonothérapie. Mmh. Et j'avoue que c'est aussi quelque chose qui est à découvrir parce que c'est vraiment extraordinaire l'intégration du son et de la vibration à l'intérieur du corps qui remet toute l'énergie au même niveau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Ah ouais, bah justement c'est à lui que j'allais donner la parole, donc il est bon pour les enchaînements.
Oh, bravo, tu devrais faire de la radio Roland.
C'est parfait. Lazare Selmy, donc sonothérapeute.
Tout à fait.
Le son,
exactement.
Bah, on sait que tout est vibration, hein.
Voilà.
Donc il faut s'accorder sur certaines vibrations
S'accorder, se réaccorder, en tout cas il faut trouver, je ne veux pas dire trouver sa note, mais il faut se mettre en résonance, se mettre en résonance avec soi-même. C'est ce que je propose aux personnes que je reçois. Donc c'est vraiment une mise en résonance avec leur moi profond, leur identité, parfois cachée justement par le quotidien, par la maladie aussi, qui fait que la maladie, ça nous met dans une bulle qui nous renferme, bien sûr.
Auto-centrée sur sa douleur,
tout
évidemment,
c'est normal. Auto-centrée sur sa douleur. Mmh. Et l'idée en sonothérapie, justement, c'est de proposer une pause, une petite pause. Alors, entendons-nous bien sur le mot thérapie. Thérapie au sens propre du terme, donc prendre soin d'eux. Mmh. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça. C'est la personne vient et elle s'accorde une pause à elle-même. Pendant laquelle je la mets en résonance avec les instruments dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit les bols chantants ou les diapasons, qui vont travailler bien sûr à un niveau énergétique, mais aussi, comme le disait Pascal tout à l'heure, au niveau émotionnel, puisque quand on entre dans un état de détente profonde, voire même très profonde, on peut accéder à des états de conscience modifiés qui font qu'il peut arriver qu'il y a des émotions qui remontent. Voilà, c'est ce que j'appelle la mise en résonance de la personne. Mmh. Et après, on prend un temps de verbalisation pour partager ce que la personne a pu vivre pendant cette heure, une heure et demie, ça dépend, où elle a voyagé intérieurement, mais surtout, elle s'est reconnectée à elle-même. Mmh. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
Elle s'est occupée d'elle aussi pendant une heure. Quoi,
et elle
déjà,
s'est occupée d'elle, c'est ça, tout à fait. C'est dans ce sens-là, prendre soin de soi.
D'accord, parce que c'est vrai que ces vibrations, on sait qu'il n'y a qu'à se mettre des fois dans un ascenseur avec un mauvais, mauvaise vibration. Quand on en ressort au bout de 4 minutes, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une différence. Négativement, on le sent très bien. Quoi.
Bien sûr.
C'est l'effet positif peut-être qu'on... Parce qu'on n'a pas l'habitude en fait.
On n'a pas l'habitude.
Il faut vraiment aller chez un thérapeute ou un spécialiste pour le vivre.
Alors... La sonothérapie, c'est vieux comme le monde. On voit une maman qui chante une berceuse à son enfant, qui met son enfant contre elle. Donc déjà, il y a vraiment la partie résonance physique qui va avoir son importance. La mélodie n'est pas si importante que ça. C'est vraiment le son au sens physique du terme. Et donc non, c'est vraiment vieux comme le monde.
C'est vrai, je n'avais pas pensé à la berceuse. Mais c'est vrai, quand on berce et qu'on chante, il y a juste le timbre de la voix. On l'entend à la radio, là, ça fait une vibration, justement.
Exactement.
Donc là, elle berce, ça apaise.
Exactement.
Donc ça, on l'a peut-être dans les diapasons, justement.
On l'a dans les diapasons.
Ce...
Voilà, alors, on l'a dans les diapasons, puisque bien sûr, les diapasons, on les applique sur le corps. Donc on ressent vraiment une résonance physique, mais avec les bols aussi, qu'on peut entendre par les oreilles, mais on peut, en les posant sur nous, les entendre d'une manière différente, les entendre corporellement.
Ah oui, les recevoir, quoi.
Voilà, les recevoir, c'est ça.
J'ai remarqué aussi, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on invente des nouveaux casques audio qu'on ne met plus dans les oreilles, qu'on pose derrière, et c'est l'os qui transmet, et on entend de la même façon. C'est quand même
c'est ça, là vous avez tout dit, parce que la vibration, elle se propage, que ce soit par les diapasons ou par les bols chantants, par les tissus. Donc, plus le tissu est dense et plus la vibration va se propager rapidement. Donc, On se base essentiellement sur le fait qu'on est composé de quand même pas mal d'eau, voilà, 70-80% d'eau, cette eau va véhiculer justement ces vibrations jusqu'au niveau cellulaire. Et les os aussi, dont vous avez parlé. Les os sont de très bonnes...
Je sais qu'on invente des nouveaux casques qu'on ne met plus dans l'oreille pour ne pas abîmer les tympans et les problèmes de surdité. Et je crois qu'ils sont posés sur un os derrière ou quelque chose comme ça, et ça permet d'entendre.
C'est tout à fait... Alors, je ne connais pas.
C'est étonnant. Mais... C'est des nouvelles technologies qui se développent pour éviter d'avoir les bouchons dans les oreilles. Quoi.
Et dans le même ordre d'esprit, si vous prenez un diapason musical pour accorder votre instrument, vous le percutez et vous le posez sur le sommet de votre crâne. Non, vous allez l'entendre différemment.
Oui, vous allez le ressentir. Voilà.
Vous allez le ressentir et l'entendre. Vraiment, vous entendez, mais la perception sonore, vu qu'elle passe pas par le tympan, vous allez l'entendre un petit peu différemment. Mais c'est une bonne façon aussi pour accorder ces instruments. On peut le poser sur une guitare, par exemple, on l'entend.
Ouais. Et concrètement, donc, pour quelqu'un qui a mal partout, dans les muscles et tout ça, on arrive à le relaxer suffisamment pour que cette douleur se...
Alors, certaines personnes sont plus réceptif que d'autres, bien sûr, mais on peut arriver à des états de détente très, très impressionnants, y compris sur des salons où il y a vraiment beaucoup de monde. On se dit la personne ne va jamais se détendre, et il y a des gens qui s'endorment, qui arrivent à s'endormir au milieu du brouhaha.
D'accord.
Ou une personne qui a des douleurs aussi récurrentes, donc il y a toujours un petit travail aussi avant l'intervention des sons proprement dites, un petit travail de détente, on parle à voix, une petite histoire, une petite relaxation guidée. Et c'est vrai que les sons, alors que ce soit les bols ou les diapasons, peuvent vraiment amener à lâcher complètement, y compris la douleur.
D'accord. Vous avez une voix assez basse, bras grave, donc il y a de la vibration, on la ressent quand vous parlez.
Un peu de vibration.
Donc ça apaise, on entend tout de suite que ça apaise les basses.
Il a la voix de ce qu'il fait également. Ouais. Il a la voix qui va avec. J'ai fait une séance avec, je peux dire que c'était...
Alors on m'a fait essayer justement ce week-end un bol.
Oui.
Alors, il était fantastique. Hein. On m'a dit que c'est vrai que c'est très étonnant parce que quand on s'approche, ça fait. Je sais pas, je suis incapable de définir ce que ça fait, mais ça fait vraiment quelque chose. On ressent un truc à l'intérieur.
Est-ce que vous êtes vraiment approché tout près?
On était en plein salon. En tant qu'organisateur, je ne suis pas du tout détendu. Il faut être clair. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle me l'a approché de l'oreille et on a envie d'y rester, en fait.
Oui. Alors, souvent.
Donc, ça, c'est un signe si on a envie de plonger dedans. Quoi.
Souvent, les sons des bols sont agréables, à l'oreille, sont agréables. Mais je dirais l'effet relaxant, c'est pas tant le son qu'on entend vraiment, mais c'est vraiment la vibration. Et c'est pour ça qu'il faut les approcher de très près. Et là, on entre dans la dimension physique, puisque un bol métallique qu'on percute, il va vibrer. On peut même le voir à l'œil nu sur les plus gros bols. On voit vraiment la paroi qui bouge. Ça va agir à la manière, on va dire, d'un micromassage. Et ce micromassage... c'est ce qui va vraiment nous détendre.
On a vu des expériences sur le web, en vidéo, avec des fréquences sonores. Et je crois que c'est du sable, non?
Oui.
Et il prend des formes de fleurs de vie, choses. C'est impressionnant, ça aussi.
C'était les travaux, c'est parti des travaux de Cladny. C'était aussi au 18e.
D'accord.
Voilà. Il a au départ commencé, enfin pas 18e, 19e, pardon. Il a commencé à mettre du sable sur des plaques métalliques avec un archet de violon. Il les a mises en résonance, tout simplement. Et en fonction de la fréquence, le son crée des formes. Le son crée des formes harmonieuses.
Oui, c'est ça, surtout.
Surtout harmonieuses.
Parce que des formes, tout le monde progresse, mais des formes qui soient aussi jolies,
c'est ça.
Ouais, c'est impressionnant.
Et si on part du principe qu'on est vibration, pour faire très simple, on est tous vibration, on n'est que vibration d'ailleurs, quand on ne vibre pas de manière harmonieuse, il peut y avoir un dysfonctionnement. Je ne vais pas parler de maladie, mais un dysfonctionnement qu'on peut aussi rétablir, en tout cas réharmoniser avec des fréquences justement adaptées. Il y a des travaux d'ailleurs
On remet sur la bonne vibration. Enfin,
c'est ça. Voilà. C'est ça.
On accorde comme un instrument.
On peut dire qu'on accorde.
Alors, je sais que des chamans, des grands sages ont souvent dit que tout est vibration. D'ailleurs, même nos atomes.
Exactement.
Ça vibre tout le temps. C'est pas figé. Hein.
Non, c'est clair.
Puisque ça tourne autour de son cœur, de son noyau.
Voilà.
Donc, ouais, effectivement.
C'est cet échange-là d'informations.
À mon avis, il faut faire attention aussi, parce que ce qu'on peut faire en bien, ça peut être... on peut désharmoniser, non, peut-être, en envoyant une mauvaise...
Alors, on peut désharmoniser... Oui, en tout cas, on peut mettre dans l'inconfort. On peut vraiment mettre dans l'inconfort. C'est pas forcément négatif, d'ailleurs, dans le sens où, quand un son nous dérange, c'est qu'il nous parle. Alors, il nous parle peut-être pas d'une façon dont on aimerait qu'il nous parle.
Moi, je préfère qu'on me parle plutôt qu'on me crie à l'oreille. Quoi.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça arrive d'ailleurs pas assez fréquemment, mais ça arrive de manière récurrente qu'il y ait certains moments au niveau de la relaxation en sonothérapie qui soient assez inconfortables jusqu'à ce que le passage, justement, que le son ait fait son office de, on va dire, dénouer le nœud qu'il pouvait y avoir.
D'accord.
Mais oui, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec des sons. Là, je vous rejoins.
C'est ce que je voulais dire. Il y a une formation, j'imagine.
Il y a une formation.
Voilà, on n'envoie pas des coups de bol comme ça.
Non.
Voilà. Puis, ce n'est pas un coup de bol, justement.
C'est pas un coup de bol.
Pour réussir.
Il y a des nomenclatures. Moi, j'étais formé en partie en France, en partie au Népal. Et c'est vrai que la formation est complètement différente. Ici, on a une approche scientifique des choses, parce qu'on peut mesurer, bien sûr, les ondes, les fréquences. Ça fait tant de hertz, etc. Au Népal, ils ont une approche plus empirique, mais qui en même temps fonctionne très bien.
On a vu dans des temples bouddhistes, hein, parce qu'ils soignent aussi.
Oui.
Il y a des thérapies ça. Et souvent, ils font répéter les mêmes mots, mais avec une voix un peu qui vibre, justement.
Qui vibre.
Ça fait un truc un peu comme ça. Et je pense qu'il y a un lien quand même.
Il y a un lien. Alors, le son, ça a été utilisé, comme je vous disais, depuis toujours, que ce soit de la maman pour son enfant. Les chamans aussi qui utilisent les tambours, les cercles de tambours qui peuvent mettre vraiment dans des états de transe. Et la voix, bien sûr, sachant que la voix, ça reste le premier instrument et l'instrument le plus puissant. Et pour revenir à ce que vous dites, oui, dans les mantras, les récitations de mantras, peuvent amener à des états aussi de conscience modifiés, ou des états de concentration très intenses. Et réciter un mantra, on va partir d'une note assez, enfin pas trop aiguë, et ça va descendre, tout doucement ça va descendre. On va se mettre dans des états, plus on va se détendre, de toute façon plus la voix va se poser.
Plus ça devient une basse, quoi.
Plus ça va devenir une basse.
Ça s'entend d'ailleurs, enfin quand on voit certains reportages sur... Alors ça s'appelle des mantras, je ne savais pas justement, mais sur ces temples où les gens se soignent avec des incantations, des voix, des sons gutturaux, on va dire.
Les sons gutturaux.
Et souvent ça descend très, très bas, voilà.
Alors, ces sons gutturaux dont vous parlez, c'est peut-être des chants harmoniques aussi, où on a une voix très très grave, avec derrière un deuxième son très aigu, des harmoniques qui virevoltent comme ça. Ça aussi, ça a une puissance thérapeutique très, très intéressante.
D'accord, il faut aimer un peu plus l'aigu. Ça peut agacer certaines fois.
Ça peut
une autre vibration, là.
C'est une autre vibration.
Ça attaque les oreilles. Vous recevez régulièrement des personnes qui viennent par l'intermédiaire de l'association Ici et Maintenant, donc qui sont un peu en souffrance ou d'autres thérapies.
Oui, bon, comme vous le disiez, Isabelle, l'association est assez récente.
Oui, mais vous étiez avant, vous.
Oui, alors... j'ai reçu au sein de l'association précédente aussi, dont celle-ci... pour moi, c'était un relais, une continuité peut-être.
Parler dans le micro.
Relais, tout en sachant que c'est quelque chose de différent. Oui, j'ai reçu des personnes notamment atteintes de fibromyalgie, donc, comme Roland, mais d'autres personnes, et d'autres pathologies récurrentes, pathologies, on va dire, chroniques, pour lesquelles ça a été très intéressant. Le travail a été très intéressant parce que c'était vraiment... en tout cas, en sonothérapie, des relaxations très profondes et une véritable pause dans le quotidien des personnes. Le fait de se mettre en pause, ça leur donne aussi un accès à eux-mêmes un petit peu plus présent. Donc, quand on est plus présent à soi-même aussi, on est plus présent à ses soins par ailleurs.
Quand vous avez toute la journée des douleurs, vous ne pouvez pas poser un pied, lever un bras, quand on vous propose une pause, à mon avis, c'est forcément bénéfique parce qu'on pense à autre chose, quoi. Parce que quand on a mal, on est tout le temps sur sa douleur.
C'est ça.
Dès qu'on bouge, on a mal, donc on ne peut pas penser à autre chose. Ben alors que là, on est allongé, soit on est en séance d'hypnose, soit on est en sonothérapie, soit on est en relaxation biodynamique. On est dans un autre truc, on rentre dans un autre concept, dans une autre phase.
Dans une autre phase, mais qui est là quand même. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de faire ressentir à la personne, c'est que certes, elle est en souffrance avec sa douleur, enfin, il y a sa douleur et sa souffrance, mais elle peut avoir accès aussi par des petits exercices simples à une autre partie d'elle-même qui est plus pacifiée, on va dire, un peu plus légère. Donc c'est intéressant aussi de faire toucher ça du doigt.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que même au niveau scientifique, quand on fait des tests sur les, on appelle ça les médicaments qui n'ont pas d'effet,
les placebos,
merci, mmh. Je ne plus le mot. Eh ben, on a vu des cas où, par exemple, un monsieur qui était parkinsonien, donc il avait énormément de mal pour marcher, on lui donne un placebo et il remarche. Et donc, quand on lui dit que c'est un placebo, là, il réalise la puissance de sa propre conscience, de son esprit. Et il dit, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que dans ces accompagnements-là, il y a aussi ça aussi. Il y a peut-être l'accompagnement à notre propre esprit à être capable, lui, d'améliorer la situation.
Tout à fait. Mais là, je rejoins Pascal. Il faut que la personne soit prête aussi à ce moment-là. Ouais. Parce que
dans le cas du placebo, on lui donne quelque chose. En lui donnant ça va te guérir.
Voilà.
Donc, c'est un peu passif quand même.
C'est passif, mais il y a quand même la force de l'intention qui est là. La force de l'intention est... Ça peut aussi...
En tous les cas, ça la révèle dans ce témoignage. Je pense qu'il doit être sur YouTube ou quelque chose comme ça, on peut le voir. Cette personne flash en se disant « mais donc je suis capable ».
Tout à fait.
En prenant un cachet avec du sucre, je suis capable d'aller mieux. Donc, c'est quand même incroyable. Ouais. Là, c'est vrai que l'hypnothérapie, là, ça peut aider. L'hypnose, ça peut aider. Là.
Ça peut aider. J'ai reçu des gens... Donc, des fibromyalgiques, mais bon, pour autre chose. Mais le fait de faire une séance d'hypnose et vraiment de partir en état modifié de conscience... Ils arrivaient dans un tel état de relaxation qu'ils se sentaient bien pour un ou deux jours encore après, quoi. Sans travailler sur la fibro. Ouais.
Et après, le quotidien reprend le dessus et les douleurs reviennent.
Malheureusement.
Mais c'est vrai qu'on est dans un monde quand même, un univers autour de nous, dans nos sociétés, où c'est dur de partir sur des chemins comme ça et de se dire « je vais y arriver tout seul ». Il y a tout le temps quelqu'un qui dit « mais non, mais tu vas te casser la gueule, voilà. Non, c'est pas possible, après, il faut être matériel, il faut croire, il faut arrêter de croire, il faut du physique, la scientifique, etc. »
Après, c'est un cheminement personnel, après. C'est que quand la personne est prête à faire d'autres expériences, à travailler sur elle, après les choses changent.
Mais ce qu'il faut être prêt, c'est être aussi assez fort pour ne pas être influencé par l'extérieur qui vous met tout le temps des bâtons dans les roues.
Mais quand on est prêt à faire des choses pour soi, on prend un autre chemin et on écoute moins les autres.
Isabelle, on a dû vous le dire, non ? Que c'était complètement idiot. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'apporter des thérapies parallèles à des personnes qui souffrent, qui ont besoin peut-être de vrais scientifiques
pas plus que ça, en fait. Non.
Ouais, parce que nous le dit des fois sur les salons quand même. Il y a des gens que ça énerve de voir l'hypnose, ça les énerve.
Voilà, des fois,
la sonopuncture, ça peut les énerver aussi.
Des fois, il y a des gens qui viennent sur les conférences juste pour contredire. Quoi.
Ouais.
On a aussi beaucoup d'ignorants. Enfin, il ne faut pas prendre. Pardon. Les gens ne savent pas, des fois. Donc, ils entendent... Et puis, il y a tellement de terminologie pour les thérapies et les thérapeutes que les gens sont perdus. Et c'est souvent par ignorance qu'ils se permettent de juger sans savoir.
Puis, il y a des exemples.
Et il y a des exemples, voilà, bien sûr.
Mais
là on peut sortir la thérapie et prendre uniquement la personne qui a décidé de basculer dans le charlatanisme. Mais souvent, les gens ne font pas la différence. Et après, on a aussi des gens désespérés qui courent vers tous les thérapies et les thérapeutes possibles pour essayer de s'en sortir. Mais encore une fois, c'est en dehors d'eux. Voilà. C'est revenir à soi pour pouvoir être acteur, encore une fois.
C'est vrai que dans le cas où justement on cherche, on court désespérément après toutes les thérapies, c'est pas la même chose que de faire le pas, comme
non,
on disait tout à l'heure.
Comment dire, faut surtout
c'est la peur là, qui commande. Non,
c'est la peur qui commande. Et surtout, il faut que les gens... un thérapeute, d'abord, on le ressent déjà. On le ressent. On peut lancer une collaboration si c'est OK, mais surtout bien regarder qu'a fait le thérapeute pour en être là aujourd'hui, parce qu'en ce moment, il y a tellement de
gens qui se prétendent.
Gens qui se prétendent ça casse un petit peu aussi pour les autres. Quoi.
Mais c'est ce qu'on disait des fois, un mois de formation quelque part et paf, on met une plaque
C'est ça.
Donc, thérapeute de quelque chose.
Voilà. ça ne s'invente pas, il y a les formations, après il y a...
Et puis ça peut être dangereux quand même, ça peut entraîner des personnes.
Après, Puis après il y a l'expérimentation aussi. Parce que être formé c'est bien, mais après il faut expérimenter.
Souvent, c'est un peu le cas de Roland, mais souvent des thérapeutes qu'on reçoit ici sont des gens qui ont eux-mêmes vécu quelque chose qui les a amenés à essayer une thérapie, qui les a amenés à aller mieux et qui se sont dit tiens, je vais partager ce que j'ai vécu.
Voilà, tout à fait.
C'est souvent ça. Hein.
C'est souvent ça, à travers une vie professionnelle très active, dépression, burn-out et tout un tas de choses, on se dit que bon, il est peut-être temps d'arrêter, de penser à soi. Ouais. Et après, là, on est quand même à même d'aider les gens. Quoi.
Ouais, là, notre psychanalyste référent qui vient régulièrement nous dit que même dans ce cas-là, c'est bien de s'être soi-même fait D'avoir fait sa propre psychanalyse, oui, bien sûr, avec d'autres, tout à fait, d'autres ouais, professionnels,
c'est...
etc.
C'est ce que j'ai fait aussi. Voilà.
Non, mais comme quoi, c'est quelque chose d'évident, apparemment.
Le psychanalyste, de toute façon, a une supervision obligatoire. Hein, dans tous les
mais là, c'est pareil, il y a plusieurs chapelles.
Après, c'est vrai que nous, dans les thérapeutes qui veulent rejoindre l'association, ils ont l'obligation de fournir leur diplôme, leur certificat, etc.
C'est ce que j'allais demander. Voilà. Ouais. Comment on certifie.
Oui. C'est obligatoire. Et que derrière, et ça, c'est dans la convention de partenariat qu'on a ensemble, c'est de, si possible, d'être supervisé également. Voilà, je veux dire, tous, parce qu'à un moment donné, on a aussi besoin. Il y a des moments où on va pas forcément. Bien, là, hein, comme tout le monde, hein, voilà, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'à 100% tout va bien. Hein, voilà. Donc il y a des moments effectivement où on a aussi dans nos vies des choses qui nous mettent un petit peu par terre. Et donc on a les collègues hein, des fois qui sont là
et, voilà. Et qu'il faut remonter.
Et qu'il faut remonter, voilà.
Alors vous êtes la seule dont on n'a pas parlé, on a parlé de l'association, de la création, mais vous êtes art-thérapeute.
Voilà, oui, je suis art-thérapeute.
Donc l'art...
L'art et la thérapie.
Qui aide, voilà.
Voilà. Alors, moi, j'aime bien dire quand on me dit, qui c'est l'art thérapie? Alors, j'explique que c'est quand les gens n'arrivent pas à formuler avec la parole, ils vont, eux, chercher les ressources et mettre en forme et en couleur ce qu'ils n'arrivent pas à verbaliser.
Et c'est vous qui donnez les crayons?
parce que
franchement, moi, quand je suis pas en forme, ça me vient pas l'idée de me dire tiens, je vais dessiner un truc pour voir ce qui va pas. Ouais. Faut que quelqu'un me dise bah tiens, essaye de faire ça.
Alors moi, j'ai un outil particulier. J'utilise le mandala.
Ouais.
Alors j'ai pas beaucoup de temps pour parler du mandala. On n'est pas sur les mandalas tibétains.
13 minutes.
13 minutes, non, ça devrait aller. Donc c'est une structure très particulière dont j'explique vraiment la symbolique. Et la personne est invitée. En fait, c'est quelque part son positionnement dans le monde et le monde autour. Voilà, c'est exactement ça. C'est positionnement dans l'espace. C'est un moment spatio-temporel pour soi, en fait. Et l'idée, c'est d'aller retrouver cette créativité perdue. Parce que quelqu'un qui est en souffrance, la créativité, ça doit lui passer au-dessus de la tête, hein, bien évidemment. Et du coup, ça tient aussi éloigné de soi. Et on le voit rien quand la personne rentre dans la pièce. On le voit à la couleur de ses vêtements, on le voit à sa façon de se comporter. Et moi, j'ai vu en utilisant le mandala, des gens changer du tout au tout. C'est-à-dire, ils avaient d'autres thérapeutes, hein, bien évidemment, mais par exemple, changer de couleur sur les vêtements et se retrouver quasiment harmonisé entre la peinture qu'ils posaient dans leur mandala et...
Ce que la peinture fabuleux. Leur avait montré, en fait.
Fabuleux.
Hein,
ah ouais.
Parce que j'ai reçu une fois une art-thérapeute comme vous, hein, qui m'expliquait qu'elle demandait aux gens de dessiner des petites choses, de se représenter. Et puis, des fois, la personne s'aperçoit qu'elle se fait tout petite dans un univers de grands trucs ou très grand dans un univers Et du coup, là, ça parle sans mots. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Quoi.
Exactement. Et puis, c'est aussi aller retrouver la créativité qui est en nous depuis tout petit. Hein. Un enfant, spontanément, on lui donne des crayons, il va savoir quoi faire avec.
Ouais.
Nous, on va dire « Ah, je ne sais pas dessiner » parce qu'on a été formaté par la vie, par nos parents, par l'école, etc. Et on a perdu toute cette spontanéité de l'enfant. Donc, c'est aussi, quelque part, retrouver tout ça. Voilà,
c'est ça
tout ce qui vient naturellement.
C'est que quand on me parlait d'art-thérapie, au départ, je croyais qu'il fallait savoir dessiner pour pouvoir bénéficier.
C'est la question.
Voilà. Donc, on peut venir et en profiter en étant complètement inapte au dessin.
Ça n'a rien à voir. Alors, moi, j'aime bien utiliser le mot tracé. Parce que le mot dessin, j'y associe le mental, donc tout ce qu'on nous a appris.
Ouais,
on voit à l'école, hein, on nous a appris à ne pas dépasser du trait, il ne faut pas sortir du cadre, etc. On est tellement cadré qu'il ne faut pas en sortir. Là, l'idée, c'est exploser le cadre.
Lâchez-vous,
voilà. Et donc, j'ai créé des ateliers spécifiques au deuil.
C'est
avec l'art-thérapie.
Voilà. Ah oui, il y a de l'art-thérapie.
L'art-thérapie appliquée au
deuil. Parce que là, vous êtes surtout dans l'accompagnement, principalement dans l'accompagnement personnes endeuillées.
Des endeuillées, tout à fait, oui.
C'est vrai, c'est une mission, ça aussi, parce qu'il n'existe pas grand-chose, là.
Alors, il y a des associations. Ouais. C'est pas qu'il existe. Si, il existe plein de choses. C'est surtout que la mort est tabou.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Alors, il ne faut pas mettre non plus que le deuil n'est pas forcément la mort. C'est toute rupture, en fait, qui n'est pas forcément voulue.
Ah oui, je dois faire le deuil de cette vie passée.
Voilà, on ne fait pas de deuil. Hein. Ça, c'est aussi une idée reçue. On ne fait pas de deuil. On prend un chemin qui est plus ou moins long. Voilà, avec des difficultés, du chagrin, de la tristesse. Mais ça peut être toute rupture, ça peut être une rupture affective, ça peut être une perte de professionnel, un déménagement, enfin vraiment toutes les choses qui créent des ruptures à l'intérieur. Et ça se ressent au niveau du corps. Et comme disait Pascal, ou même mes autres collègues, ça se ressent à tous les niveaux, en fait. Voilà. Et Il y a beaucoup d'accompagnements, il y a beaucoup d'associations. Il y a la Fédération Vivre son deuil avec laquelle je me suis formée pour l'accompagnement, notamment à la création et l'animation de Café Deuil. C'est surtout que c'est tabou, on n'en parle pas. L'endeuillé, il est à part.
Oui, puis c'est vrai que c'est gênant.
C'est gênant.
On ne sait pas quoi dire, oui. On se sent maladroit.
Totalement.
Alors que là, on est, encore une fois, on est à l'extérieur. Ce n'est pas des amis, des copains qui ne savent pas comment parler ou qui vont faire des grosses bourdes aussi, des fois, partant d'une bonne intention, mais des fois, on est un peu maladroit. Quoi.
Oui.
Donc là, comment ça se passe? On parle chacun?
Alors, le café d'œil... Ouais.
C'est tous les mois, hein, votre
café d'œil. Tous les mois, tous les troisièmes jeudis du mois à Caumont. Ce qu'il y a de formidable dans ce café d'œil, c'est que c'est pas à vocation thérapeutique. Donc, c'est pas la peine de venir faire une thérapie. Déjà, la thérapie n'est pas nécessaire forcément hein, dans un cas de deuil. C'est simplement un endroit, un espace de bienveillance où les gens vont venir ou parler, s'ils arrivent à parler, ou simplement écouter. Et j'ai eu des cas où la personne est arrivée en disant « Moi, de toute façon, je veux pas parler, j'écoute simplement. » Et puis, à la fin, elle a lâché ce Elle a ouvert la bouche pour parler. Voilà. Donc, il se passe des choses assez extraordinaires. Et il y a des gens, pour un événement qui n'a strictement rien à voir avec ce pourquoi ils sont venus une première fois, vont revenir. Parce qu'il y a des résonances qui se mettent en place, des choses qui vont se réveiller, etc. Donc, il n'y a pas de nombre de fois à venir. C'est comme si on allait au café, finalement.
Ouais.
Voilà. Sauf qu'il y a un propos particulier à ce moment-là.
Bah, qu'on a quelque chose... Qui pèse quelque part, parce que ça pèse hein, de toute façon. Soit on va écouter d'autres personnes, voir comment elles sont aussi, comment elles le vivent, elles plutôt.
Oui.
Et puis des fois, donc, soi-même, on peut lâcher quelque chose, laisser quelques bagages et partir plus léger des fois.
Tout à fait.
Ça s'adresse à tout le monde.
Tout
oui, on paye juste son verre.
On paye juste son verre, voilà. Alors, je n'ai pas eu d'enfants pour l'instant, je n'ai pas eu d'hommes également qui sont venus. Les hommes, c'est vrai, n'ont pas la même facilité. Ou sont peut-être plus dans l'action que dans la verbalisation.
Oui,
après, c'est propre à... Voilà, on est unique, hein, donc chaque façon de passer ça est unique également. Mm-hmm. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ouais.
Alors, c'est le troisième jeudi,
de chaque mois.
À
Caumont-sur-Durance, au 56, sur la route de Cavaillon.
C'est au 56 de quelque chose ?
C'est au 56 de la route de Cavaillon. Ça ne s'appelle pas route de Cavaillon, mais sur la route de Cavaillon, à côté du Cœur des Fleurs. Voilà,
d'accord, vous cherchez le 56 à Caumont-sur-Durance.
Voilà.
Le troisième jeudi du mois de mai, il est passé ou pas ?
Oui, c'était la semaine dernière.
Ah zut !
Donc là, on passe au mois de juin.
Donc il faudra attendre
C'est le 20 juin, il me semble.
Attendez, je vais calculer. Le 20 juin, bravo.
Voilà. Eh.
On y va comme ça, c'est à quelle heure, 19h ?
18h30.
18h30.
Oui.
Ça, c'est nouveau ? C'est une idée que vous avez eue récemment ?
J'ai été formée l'année dernière. Alors, j'ai fait tout un cursus sur le travail du deuil à Paris. À Paris. Voilà, en 2015. Et je voulais aussi avoir quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique et quasiment immédiat. Parce que c'est vrai que le travail avec les endeuillés est assez long. Et du coup, là, c'était immédiat et assez convivial, finalement.
Il y a une formation, c'est ça aussi
pour, Oui, parce qu'on ne fait
pas n'importe quoi dans ces cas-là non plus. Hein.
Non, c'est important.
Il ne suffit pas de se dire, tiens, je vais prêter une oreille pour être capable de la prêter, cette oreille.
Non, c'est important. Mmh. Et ça, enfin, moi, je sais que ça m'apporte énormément. En fait, ça me nourrit dans le sens où c'est de l'amour, quelque part, qui circule entre les gens. Dans la peine, ça fait écho, bien évidemment.
C'est une attention, en tout cas.
Oui.
Donc, ça part d'une impulsion... bénéfique, positive, amoureuse peut-être, amicale, empathique en tout cas,
tout à fait.
Parce qu'on comprend. Mm. Dans ces cas-là, dans ces cafés deuil, ça s'appelle comme ça ? Café deuil, le troisième jeudi du mois, le prochain le 20 juin, à Caumont-sur-Durance, au numéro 56. Est-ce que vous faites appel à vos thérapeutes, à votre équipe
l'association
ici et maintenant.
C'est ouvert aux thérapeutes, sachant que nous sommes des écoutants dans cette...
Avec un autre costume, on va dire. Une autre étiquette, s'il faut une étiquette. Juste comme ça, pour accompagner, quoi. Pour participer, on va dire.
Alors, ils peuvent participer, tout à fait. J'ai déjà des thérapeutes qui sont venus, sachant qu'ils n'ont pas à intervenir pendant cette période-là. Voilà. Mmh. C'est vraiment une période d'écoute. Où moi, j'interviens très peu d'ailleurs. Je laisse parler les gens, voilà, parce qu'ils ont besoin de parler. Et on le voit, des gens qui sont restés coincés.
Bah,
d'un seul coup, ça sort.
Faire le premier pas, ça ne doit pas être facile. Quand vous êtes réunis, c'est quoi? C'est en rond? C'est une table ronde?
C'est la table qui se présente. Alors, des fois, quand on n'est pas beaucoup, ça peut être sur des canapés, de façon très cosy. Des fois, sur une table.
Ah, ça peut être tête à tête?
Ah, j'ai eu tête à tête. Oui, oui, oui. Ça a été plus tête à tête. Ouais.
D'accord. Ouais, okay, ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'imagine toujours 7 ou 8 personnes.
Il y a eu, on a, mais des fois, c'est un peu moins, ça dépend.
Parce que c'est gênant quand même, des fois, quand on est 5, 6, de commencer, de dire, bah, tiens, je vais vous raconter.
Il y a toujours quelqu'un qui se lance, ouais. et c'est rigolo, ces effets d'écho et de ping-pong. Voilà, j'en ai qui m'ont dit, moi, je viens juste pour écouter, hein, ouais. Puis je verrai, parce que je veux voir comment ça se passe.
Bah, oui.
Et puis, c'est la personne qui parle le plus.
Bah, oui, mais des fois, on en a besoin, mais on se retient, on n'a pas...
C'est émouvant, mais on tombe pas dans le pathétique, quoi. C'est émouvant parce que c'est vivant. Les gens sont vivants. On parle peut-être de la mort très, très souvent, mais les gens sont des êtres vivants et on sent qu'il y a de la vie qui est là, qui pulse, et cette espèce de force qui pousse, peut-être qui les pousse à parler, mais qui les pousse à continuer à vivre aussi.
Oui, parce qu'il faut bien continuer.
C'est ça.
Ou alors... Il faut choisir de partir, mais ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre
histoire. Donc, à partir du moment où il faut bien continuer, c'est vrai que ben, on se raccroche un petit peu aux branches, des fois, quand on est tout seul. Mmh. Ou alors, c'est peut-être une solution aussi de pouvoir parler, tout
aussi,
simplement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire là, dans ces cas-là. S'il n'y a pas de thérapie. Ou une psycho, peut-être, thérapie. On vous accompagne psychologiquement.
On peut. C'est faisable. Après, on n'est pas... il peut y avoir des deuils pathologiques, c'est-à-dire des deuils qui se compliquent vraiment. Après, le deuil compliqué, qui n'est pas un deuil pathologique, mais le deuil pathologique, où là, vraiment, ça, on tombe dans des choses très névrotiques, des choses très, très, très lourdes. Ce n'est pas la majorité des cas. Parce que souvent, on dit, oh, bah, tu devrais aller en parler à un psy. Ce n'est pas la majorité des cas. Et les gens n'ont pas forcément envie d'aller parler à un psy. Et ce n'est pas non plus obligatoire.
Ben non. Et l'accompagnement aux endeuillés, vous le faites que pour le café d'œil?
Non, non, genre, moi je propose... Aussi, voilà, non, je reçois les personnes en individuel dans mon cabinet. Et puis, je propose aussi des ateliers de groupe. C'est tout nouveau, je viens juste de créer le module. Des ateliers d'expression créative aussi. Parce que cette créativité, on a l'impression comme on a un morceau de nous qui est parti avec cette personne qui est partie. L'idée, c'est d'aller retrouver ce qui est caché, ce qui est voilé totalement, ce qui est masqué par la tristesse, hein, la douleur,
l'art peut aider, là.
Ah oui, énormément.
Ouais, l'expression artistique peut aider. Mais on dit souvent, alors surtout les poètes, hein, mais c'est souvent dans les plus grands chagrins d'amour, dans les plus grandes douleurs, qu'ils écrivent leurs plus belles pièces.
C'est vrai, oui, peut-être. Ouais,
donc, certainement. Tout à l'heure, vous disiez que l'art est... Mais pour les écrivains ou les poètes, ça marche très bien, quoi. Pour les peintres, peut-être aussi.
Pour les peintres aussi, alors, bah, on en a connu quelques-uns, quand même.
Les
névrotiques aussi.
L'association ici est maintenant. Vous êtes située dans quel coin?
Alors, le siège social est à Caumont-sur-Durance.
Ouais.
Voilà. Et puis après, bah, chacun est un petit peu partout. Voilà. Dans le coin.
D'accord, hein, mais quand on est un lambda comme moi, par exemple, et je me dis, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien.
Alors, donc, la page Facebook, voilà. Le site internet et mon numéro de téléphone.
D'accord.
Voilà.
Qui est
06 63 59 78 19.
06 63 59 78 19.
Voilà.
J'ai fait à peu près le tour, mais j'ai peut-être oublié des choses. Bah, on va peut-être vous
on
voir
reviendra.
Bientôt. On va peut-être vous retrouver dans la galerie marchande d'Auchan.
Eh ben, ce serait génial,
le
oui.
15 juin, puisqu'on fait une semaine bien-être là-bas, et puis on vous offrira un espace. Comme ça, c'est l'occasion de rencontrer directement des personnes qui pourraient être intéressées.
Ça nous ferait bien plaisir.
Pascal Mélène, on vous retrouve vous bientôt.
À bientôt, justement, au Auchan.
Il va au champ, lui. Il va au champ, Pascal.
Oui.
D'accord, merci. Alors.
Merci l'organisateur, merci.
Entre le 12 et le 15 juin. Merci Pascal, merci Isabelle. Merci Lazare.
Merci.
Vous avez un endroit où on vous retrouve bientôt, vous voulez annoncer, non?
Moi, j'ai mon cabinet qui est situé sur Modène, à côté de Caron.
D'accord. Lazare, Selmi, il y a votre nom sur la vidéo, donc les gens vous retrouveront, j'imagine.
Merci.
C'est pas tout le monde qui s'appelle comme ça, donc
c'est
à
pas
mon
tout
avis.
Le monde qui s'appelle
non,
voilà.
On en a un, on le garde.
Et Roland, merci beaucoup.
Merci.
Ça va mieux?
Oui, mieux. Mais je voudrais juste rajouter une petite chose pour terminer.
Oui. Approchez le micro alors qu'on l'entende bien, parce que sinon ça va être loin.
Et voilà, je voudrais juste te dire que quelle que soit la situation, au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Il faut jamais abandonner.
Bravo.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vous rappelle que cette émission, c'est Osmosène, l'émission bien-être d'Osmose Radio, produite par Osmose Radio, reproposée tous les dimanches soirs par Rage FM 90.3. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, passez un bon moment et nous on se retrouve après-demain pour d'autres rendez-vous bien-être.